Gaston Bachelard, Radio. Aujourd'hui, troisième émission, le merveilleux scientifique.
Car il s'agit maintenant de pensées merveilleuses.
Aux grandes fêtes d'hiver, dans mon enfance, on faisait un brûlot. Mon père versait dans un large plat du marc de notre vigne. Au centre, il plaçait des morceaux de sucre cassé, les plus gros du sucrier. Dès que l'allumette touchait la pointe du sucre, la flamme bleue descendait avec un petit bruit sur l'alcool étendu. Ma mère éteignait la suspension. C'était l'heure du mystère et de la fête, un peu grave. Des visages familiers, mais soudain inconnus dans leur lividité, entouraient la table ronde. Par instants, le sucre grésillait avant l'écroulement de sa pyramide. Quelques franges jaunes pétillaient au bord des longues flammes pâles. Si les flammes vacillaient, mon père tourmentait le brûlot avec une cuillère de fer. La cuillère emportait une gaine de feu comme un outil du diable. Alors, on théorisait. Éteindre trop tard, c'est avoir un brûlot trop doux. Éteindre trop tôt, c'est concentrer moins de feu et par conséquent diminuer l'action bienfaisante du brûlot contre la grippe. L'un parlait d'un brûlot qui brûlait jusqu'à la dernière goutte. Un autre racontait l'incendie chez le distillateur, quand les tonneaux de rhum explosaient comme des barils de poudre, explosion à laquelle personne n'a jamais assisté. À toute force, on voulait trouver un sens objectif et général à ce phénomène exceptionnel. Enfin, le brûlot était dans mon verre, chaud et poisseux, vraiment essentiel. Oui, c'est le vrai feu mobile, le feu qui s'amuse à la surface de l'être, qui joue avec sa propre substance, bien libéré de sa propre substance, libéré de soi. C'est le feu follet, domestiqué, le feu diabolique au centre du cercle familial. Après un tel spectacle, les confirmations du goût laissent des souvenirs impérissables. De l'œil extasié à l'estomac réconforté, s'établit une correspondance baudelairienne d'autant plus solide qu'elle est plus matérialisée. Pour un buveur de brûlot, comme elle est pauvre, comme elle est froide, comme elle est obscure, l'expérience d'un buveur de thé chaud. Gaston Bachelard, la psychanalyse du feu.
Au ravissement de l'enfant devant l'eau de feu primitive, fait écho celui des alchimistes et des premiers savants, pour qui les éléments sont aussi source d'étonnement, de rêverie. Mais si les premiers savants s'émerveillaient devant le monde, Gaston Bachelard, lui, s'émerveille devant la science contemporaine. Voici, sur ce thème, une causerie que Gaston Bachelard a enregistrée le 13 décembre 1947.
Une psychologie détaillée des intérêts que suscite la science serait une psychologie de l'émerveillement progressif. Pour bien connaître la nature, il faut l'avoir admirée. C'est alors seulement qu'on a le goût et la patience d'en chercher les merveilleux secrets. Un coup d'œil sur l'histoire des sciences peut nous convaincre qu'elle est une histoire des merveilles. Par exemple, les alchimistes s'attachent d'abord aux propriétés étonnantes. L'alcool est pour eux l'eau de feu, l'eau qui brûle, en contradiction avec les phénomènes familiers. Les substances travaillées par l'alchimiste sont des convergences de valeurs. La pierre philosophale non seulement doit faire mûrir tout métal pour donner l'or, mais elle doit fournir des panacées merveilleuses pour toutes les maladies. Elle doit permettre de concentrer des eaux de jouvence, des élixirs qui rendent la jeunesse.
Prenez l'eau forte. Elle consomme le bronze et le fer. Son feu caché, son feu sans chaleur, brûle le métal sans laisser de traces, comme un crime bien fait. Aussi, cette action simple mais cachée, lourde de rêveries inconscientes, va se couvrir d'adjectifs, suivant la règle de l'inconscient, moins on connaît et plus on nomme. Pour qualifier le feu de l'eau forte, Trévisan dit que ce feu caché est subtil, vaporeux, digérant, continuel, environnant, aérien, clair et pur, enfermé, non coulant, altérant, pénétrant et vif. De toute évidence, ces adjectifs ne qualifient pas un objet, ils exposent un sentiment. Gaston Bachelard, la psychanalyse du feu.
Quand vient l'époque des grandes découvertes, quand le merveilleux scientifique apporte des preuves positives et précises, l'admiration ne cesse de réclamer plus de merveilleux encore. S'agit-il de la découverte de la lunette astronomique qui permet de voir les satellites de Jupiter? Aussitôt, l'imagination s'enthousiasme et l'on demande si l'on pourra, en perfectionnant l'instrument, voir s'il y a des âmes dans la Lune. L'électricité, au XVIIIe siècle, excita la même curiosité passionnée. En particulier, quand fut découverte la bouteille de Leyde, l'intérêt fut prodigieux. Il dépassa la sphère de la bourgeoisie cultivée. Des démonstrateurs coururent le pays et un auteur dit que les sommes recueillies par ces démonstrateurs valent le budget d'un empire. On prête à l'électricité les effets les plus curieux. La littérature médicale du XVIIIe siècle est pleine de guérisons miraculeuses obtenues par l'électricité. L'abbé Berthelon ne se contente pas du paratonnerre. Il propose un paratremblement de terre sur les principes de l'électricité. Mais voici l'époque où la science réalise ses merveilles. Il ne s'agit plus de vues lointaines et fantastiques, d'une imagination enthousiaste. On peut dire en effet qu'un ordre nouveau de merveilleux vient d'apparaître depuis 2 siècles et que ce nouveau merveilleux scientifique anime aussi bien la recherche expérimentale que la recherche théorique. Car il s'agit maintenant de pensées merveilleuses qui suit, par exemple, l'essor des mathématiques modernes est en état d'admiration permanente. Sans doute, de telles beautés ne sont pas sensibles aux profanes, mais de ce fait même, elles sont la récompense, hélas, souvent la seule, du travailleur de la pensée moderne. Ainsi, au lieu d'un merveilleux qui foisonne dans les images, la science connaît un merveilleux qui se constitue ont d'admirables pensées. Depuis le début de la recherche du merveilleux, la science n'a rien perdu de son patrimoine d'admiration.
Cet enthousiasme de Bachelard pour la science contemporaine, son émerveillement devant les vertus de dépassement, de renouvellement de l'esprit scientifique, s'exprime également dans une causerie du 29 avril 1955, où Bachelard explique combien la science, principe de vitalisation de l'homme, peut être, dans ses recommencements, l'occasion d'une jouvence intellectuelle.
Quelle que soit l'exploitation que l'on fera de la science, il faut désigner la science comme un avenir positif de l'homme. La science est une ligne de destin pour l'homme. Par la science contemporaine, nous sommes placés devant une ouverture de la destinée des hommes. Nous venons d'avoir, depuis un demi-siècle, dans la pensée scientifique, des exemples éminents de pensée ouverte. Les progrès qui s'y manifestent ne sont pas simplement des accumulations de savoir. Il s'agit de réorganisation des bases mêmes du savoir. Quand on examine, par exemple, la création des mécaniques relativistes, quantiques, ondulatoire, on a l'impression d'un rajeunissement de la raison humaine.
Si l'on pose maintenant le problème de la nouveauté scientifique sur le plan plus proprement psychologique, on ne peut manquer de voir que cette allure révolutionnaire de la science contemporaine doit réagir profondément sur la structure de l'esprit.
On comprend alors que la science, dans ses régions les plus austères, propose de nouveaux départs, de nouvelles lignes de vie intellectuelle. La science contemporaine nous offre de nouveaux modes de compréhension de l'univers.
L'esprit a une structure variable dès l'instant où la connaissance a une histoire. En effet, l'histoire humaine peut bien, dans ses passions, dans ses préjugés, dans tout ce qui relève des impulsions immédiates, être un éternel recommencement. Mais il y a des pensées qui ne recommencent pas. Ce sont les pensées qui ont été rectifiées, élargies, complétées. Elles ne retournent pas à l'oreille restreinte ou chancelante. Or, l'esprit scientifique est essentiellement une rectification du savoir, un élargissement des cadres de la connaissance. Il juge son passé historique en le condamnant. Sa structure est la conscience de ses fautes historiques. Scientifiquement, on pense le vrai comme rectification historique d'une longue erreur. On pense l'expérience comme rectification de l'illusion commune et première.
Corrélativement, la science contemporaine mais de larges régions du savoir au passé, entre la science telle qu'elle était cherchée dans l'Antiquité et la science contemporaine, on peut, pour les distinguer philosophiquement, se servir des formules bergsoniennes et parler d'une opposition entre science close et science ouverte. Les mathématiques elles-mêmes, qui avaient comme idéal une pensée bien circonscrite dans sa perfection, sont touchées par des dialectiques qui permettent de constituer, à côté de la géométrie euclidienne, des géométries non euclidiennes.
L'essence même de la réflexion, c'est de comprendre qu'on n'avait pas compris. Les pensées non baconiennes, non euclidiennes, non cartésiennes sont résumées dans ces dialectiques historiques que présente la rectification d'une erreur, l'extension d'un système, le complément d'une pensée.
De telles doctrines sont des nouveautés essentielles. Quand on les suit dans une culture, elles apparaissent comme des découvertes rationnellement inattendues. Si donc on définit l'avenir comme un règne ouvert, comme le domaine des nouveautés imprévisibles, on s'aperçoit qu'il faut donner son plein sens à la notion d'avenir dans les mathématiques mêmes. Les mathématiques, science du définitif, connaissent de nos jours un développement extraordinaire.
Il ne manque qu'un peu de vie sociale, qu'un peu de sympathie humaine, pour que le nouvel esprit scientifique, le NES, prenne la même valeur formative qu'une nouvelle économie politique, la NEP. Pour beaucoup de savants qui poursuivent avec passion la vie sans passion, l'intérêt des problèmes présents correspond à un intérêt spirituel primordial où la raison joue son destin. Gaston Bachelard, le nouvel esprit scientifique.
Souvent, dans vos livres, Dominique Lecourt, que l'épistémologie bachelardienne, la philosophie des sciences de Bachelard, était polémique et qu'elle s'était constituée contre d'autres philosophies. Et vous dites en particulier dans un article qui a été publié dans le numéro de l'Arc consacré à Bachelard, qu'elle s'est constituée contre ces deux vampires de la philosophie que sont le spiritualisme d'une part et le positivisme d'autre part. Alors, est-ce que vous pourriez situer un peu la philosophie des sciences de Bachelard par rapport à ces deux pôles?
Oui, il faut que je justifie alors le mot de vampire. Si j'ai parlé de vampire, c'est parce que je visais deux philosophies qui se nourrissent de substances étrangères, en l'occurrence les sciences existantes, pour les assimiler, les transformer et finalement, malgré les prétentions de l'une et de l'autre, les défigurer. Pour ce qui est du spiritualisme, la position de Bachelard, pour la schématiser, elle consiste perpétuellement à dire le spiritualisme suppose qu'il existe un esprit humain pourvu d'une essence invariable, intemporelle, auquel on puisse imputer l'ensemble des productions ou des créations culturelles, et en particulier les productions et créations scientifiques. Par conséquent, pour le spiritualisme, expliquer ce que c'est que un concept scientifique, un problème scientifique, c'est toujours revenir à la structure supposée éternelle d'un esprit humain dont il s'entendait particulièrement à célébrer la liberté absolue. Or, pour Bachelard, ce que prouvent les sciences contemporaines, celles sur lesquelles il réfléchit, c'est-à-dire la microphysique du début du siècle et la théorie de la relativité, c'est que l'existence d'un tel esprit humain, pourvu de structures stables, invariables, est une fiction, et même une mystification philosophique. Et les formules qu'il emploie toujours dans ce cas, elles reviennent à montrer que il n'y a pas de raison ou d'esprit constituant, mais que ce qu'on appelle l'esprit ou la raison s'ordonne, c'est son mot, à la structure du savoir et de la science en constitution. Voilà pour ce qui est du spiritualisme.
Oui. Pour ce qui est du positivisme, en quoi Bachelard est-il anti-positiviste? Et au fond, peut-être il faudrait rapidement d'abord dire
si on en donnait une définition bachelardienne, on dirait que le positivisme, c'est la religion du fait. Ou, si vous voulez, pour dire des choses autrement, on dirait c'est une philosophie du c'est comme ça. Alors, une des thèses, je n'en prends qu'une, c'est nécessairement schématique, mais je n'en prends qu'une. Une des thèses qui se transmet de Auguste Comte au positiviste logique, qui par conséquent peut être considéré comme une des thèses cardinales du positivisme en tant que doctrine philosophique, c'est que il y a une unité de la science, et que cette unité de la science, au-delà de ses spécialisations, autant dans les sciences de la nature que dans les sciences humaines, cette unité de la science peut être imputée à une méthode unique. Bachelard explique que, en réalité, chaque science a sa méthode, que sa méthode est strictement solidaire du type de problème que se pose le scientifique, et que, ce qui est plus intéressant, loin que l'activité scientifique consiste à appliquer, comme on disait, c'est un mot conscient par excellence, à appliquer une méthode à un domaine donné, l'activité scientifique dans ce qu'elle a de vivant consiste à vouloir mettre en échec la méthode dont on dispose. Parce qu'à ce moment-là, au moment où, à la pointe de la recherche, on arrive à mettre en déroute sa propre méthode, alors surgit l'idée nouvelle, le problème nouveau, et aussi la nécessité de reformuler en fonction de l'idée nouvelle et du problème nouveau une nouvelle méthode.
Fait remarquer que toutes les révolutions scientifiques fondamentales de notre siècle ont été provoquées par de jeunes génies, Einstein, Bohr, Louis de Broglie, Frédéric Herin, Joliot-Curie, Dirac ont produit leurs travaux décisifs vers la trentaine. Et il suffit de fréquenter les laboratoires et les amphithéâtres pour se rendre compte que la science moderne, si difficile, si complexe, si mouvante, est une science de jeunes. La science moderne a, de ce fait, le signe d'un avenir. Dans un laboratoire de recherche, on vient systématiquement pour apprendre à dépasser le savoir acquis. Une autre raison qui fait de la pensée scientifique un avenir de l'homme, c'est que la science contemporaine se trouve devant des domaines d'une nouveauté essentielle, devant un monde dont on peut assurer qu'il n'a jamais été rencontré dans les siècles antérieurs. Au-delà des phénomènes de la chimie atomique viennent d'apparaître les phénomènes de la physique nucléaire. Ces phénomènes n'ont aucune commune mesure avec les phénomènes qui nous entourent. L'intérieur du noyau d'atome, c'est plus qu'un nouveau monde, c'est un autre monde. Il se présente nécessairement comme un avenir de connaissances qui n'a rien de commun avec le passé de notre connaissance.
Pour nous qui essayons de dégager les nouvelles manières de penser, nous devons nous diriger vers les structures les plus compliquées. Nous devons profiter de tous les enseignements de la science, si spéciaux soient-ils, pour déterminer des structures spirituelles nouvelles. Nous devons comprendre que la possession d'une forme de connaissance est, automatiquement, une réforme de l'esprit. La culture scientifique doit déterminer des modifications profondes de la pensée. Gaston Bachelard, la philosophie du non.
L'idée de Bachelard, au début, c'était que la philosophie dominante était finalement assez bien accordée à la science du XVIIIe siècle et encore du XIXe siècle jusque dans les années 50. Puis, que compte tenu de la constitution des géométries non euclidiennes, d'apparition de ce qu'on appelait alors les doctrines microphysiques, et puis, ce qui est peut-être le plus important, la constitution de la théorie de la relativité, il s'est produit soudain un divorce entre philosophie et science vivante. Et alors,
comme si la philosophie du temps était celle d'une science morte.
Voilà, exactement. Mmh. Et alors, tous ces premiers textes résonnent d'appel au philosophe, lui qui n'était pas un philosophe d'origine, qui était un scientifique d'origine, d'appel au philosophe pour qu'ils mettent à jour, en somme, leur discipline. Bon. Alors, ce qui s'est passé ensuite, c'est que, au fur et à mesure de ses travaux épistémologiques, il a dû remettre en question cette supposée adéquation entre la philosophie du 19e et du 18e siècle et puis les sciences de leur temps. Et il en est venu à penser que pour des raisons qui tiennent au mode dominant de philosopher, il y avait un écart systématique entre ce que les philosophes disent de la connaissance et puis ce qu'est la pratique effective, vivante des sciences, quelle que soit l'époque. Donc, le mot d'ordre donné à la science, à la philosophie qu'elle mérite, a changé quelque peu de sens. Il a changé de sens puisque il a consisté à désormais à appeler de ses voeux la mise au point de catégories philosophiques nouvelles, souples, suffisamment souples pour épouser le mouvement dynamique de la pensée scientifique. Le thème bachelardien par excellence dans ce domaine, c'est que si on travaille avec les grosses catégories philosophiques de la tradition, on laisse échapper ce qui est le mouvement de la pensée scientifique. Bon, ce qu'on peut ajouter entre nous, c'est que ce programme de constitution d'une philosophie, il est resté inachevé.
Peut-être à cause de l'inachèvement même des sciences en question.
Ah, peut-être. Mais ce qui est remarquable aussi, c'est que Bachelard n'a pas cessé de continuer à annoncer cette philosophie. Mais c'est resté inachevé, et peut-être que c'est cet inachèvement qui est le plus fécond dans l'œuvre de Bachelard. On voit même que dans le même temps, ça fait la vie de ses textes, dans le même temps où il annonce la nécessité de constituer cette philosophie, il donne par ailleurs tous les arguments pour penser qu'une doctrine philosophique ne doit pas être constituée. Et alors, il en tire, en fait, dans sa pratique philosophique, épistémologique, il en tire implicitement une conception de la philosophie comme force. C'est une conception un peu nietzschéenne. Nietzsche a l'idée que la philosophie est une force. C'est-à-dire qu'elle est d'abord, dans le domaine de la théorie, une pratique. Qu'elle ne doit pas donner un tableau du savoir, mais qu'elle est toujours présente dans tout savoir, sous une forme ou sous une autre, et qu'elle y a un rôle soit de libération, soit au contraire de conservation. Et Bachelard est pour la libération du mouvement du savoir par l'action philosophique contre cette philosophie toujours présente qui tente à conserver l'état de choses existant. Alors, c'est cette conception de la philosophie qui fait l'unité de tout son vocabulaire, de toutes ses métaphores. La métaphore de la force, qui prend souvent sous sa plume une connotation psychologique, le dynamisme psychique, le tonus. Le mot tonus revient toujours sous sa plume, autant dans ses livres de poétique que dans ses livres épistémologiques.
Bref, l'avenir de la science est désormais une notion philosophique essentielle. On ne peut plus concevoir une science qui se fermerait sur elle-même. La science immobilisée, la science arrêtée, une science qui ne serait pas un avenir de pensée, ne correspond plus à aucune réalité.
C'était Le Merveilleux Scientifique. Document INA, Gaston Bachelard, Causerie, 1947-1955. Une émission composée par Michel Cohen, Janine Antoine, avec la participation de Dominique Lecourt. Texte lu par Claude Royer-Journoux. Collaboration technique, Michel Crise. Un rêveur de mots, Gaston Bachelard.
Gaston Bachelard, bis, archives, 1947-1962. Cette semaine, la pensée grecque et l'esprit scientifique, aujourd'hui, mathématiques, philosophie et sciences naturelles, Platon, Aristote, Théophraste, 1954.
Historiquement, Platon, qui vécut de 428 à 347 avant Jésus-Christ, se place entre deux époques célèbres de la mathématique grecque, entre le temps des Pythagore, Pythagore est mort vers 490 avant Jésus-Christ, et la publication des fameux éléments géométriques d'Euclide, publication qui eut lieu vers 310. Platon fit plusieurs séjours dans l'Italie du Sud, dans la Grande Grèce, où régnèrent, durant de longues années après la mort de Pythagore, des écoles pythagoriciennes. Il en reçut une influence qui ne s'effaça jamais. À Athènes même, l'activité mathématique est intense autour de Platon. Parmi ses maîtres, on peut citer Théodore de Cyrène, Théétète, Eudoxe de Cnide, Ménechme, qui pense pour avoir étudié le premier les sections du cône. Théodore et Théétète, poursuivant les recherches pythagoriciennes qui avaient amené à rencontrer la quantité incommensurable racine de 2, détermine l'existence des incommensurables racine de 3, racine de 5, racine de 7, jusqu'à racine de 17. Quel est le rôle de Platon dans cette école de mathématiciens? Pour Paul Tannery, Platon est à peine mathématicien. Le jugement de Gaston Millon est plus nuancé. Il écrit « Si nous ne pouvons assigner avec précision l'œuvre mathématique personnelle de Platon, nous avons du moins la certitude que, de son temps, près de lui, souvent peut-être, comme l'indique Proclus, sous sa direction, un travail énorme s'est accompli. L'admiration de Platon pour les mathématiques, admiration qui déborde de ses œuvres et qui se dégage de tout ce que la tradition nous dit de lui, n'a donc rien d'extérieur ni de superficiel. Voilà le jugement de Gaston Millon. De toute manière, du point de vue philosophique, les connaissances mathématiques de l'époque apportent tant de soutien à certaines thèses platoniciennes qu'il faut toujours avoir dans l'esprit, quand on étudie Platon, les notions mathématiques qui étaient à la base de sa culture. Platon avait été obsédé par la vision des formes et des nombres. Essayons d'esquisser, dans leur caractère spécifiquement platonicien, les notions de nombre et de forme géométrique. Il va d'abord de soi que Platon a une claire vision du caractère indéfini de la croissance des nombres communs. Il a aussi toute la culture d'un pythagoricien sur la manière de figurer les nombres en les représentant par des points ordonnés géométriquement en réseau, prenant la forme de triangle, de rectangle, de carré, de pentagone. C'est précisément que Platon veut utiliser le nombre pour soutenir sa philosophie des idées, ou plus généralement, suivant la grande leçon de la philosophie pythagoricienne, pour donner, par le nombre, une explication du cosmos. Il ne s'agit plus alors de considérer des multiplicités indéfinies. Il faut instituer, avec les nombres les plus simples, des valorisations arithmétiques de l'univers. Et c'est ainsi que de longues méditations sont appliquées à la décade, aux 10 premiers nombres. Trouver une organisation interne de la décade, c'est préparer des chaînes pour comprendre l'organisation de l'univers. En additionnant les 4 premiers nombres, 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. On voit ici en action la fameuse tétractice qui est appelée dans le serment pythagoricien la source de l'inépuisable nature. La génération des nombres idéaux de la décade ne se fera pas en suivant le principe d'additivité qui ne nous livrerait que la suite indéfinie des nombres, la suite sans structure des nombres communs. Il faut prendre le problème autrement. Par duplication à partir de l'unité, on formera les nombres 2, puis 4, puis 8. Avec cette première série, on obtient, par application de l'unité, les trois nombres 3, 5, 9. Et en recommençant une duplication de 3 et de 5, on achève avec les nombres 6 et 10 la décade après avoir encore ajouté l'unité à 6 pour obtenir 7. C'est assez compliqué. Sans doute, une telle constitution progressive paraît très gratuite à un esprit moderne. Mais on en voit mieux le sens si l'on tient compte d'une véritable philosophie de la parité et de l'imparité,
du fait aussi que le rôle de l'unité et de la dualité reçoit dans de telles considérations une illustration première. Le problème des formes géométriques ne prend lui aussi tout son sens que si on examine le rôle des formes polyédriques régulières dans une organisation de la nature. Platon connaît les cinq polyèdres réguliers. Rappelons-les. Les seuls polyèdres constitués par des faces qui sont des polygones réguliers sont, comme on l'enseigne encore dans la géométrie de notre temps, le tétraèdre avec quatre faces, le cube ou hexaèdre avec six faces, l'octaèdre avec huit faces, le dodécaèdre avec douze faces, et enfin l'icosaèdre avec vingt faces. Ce classement, par nombre de faces croissant, laisse échapper un caractère qui est mis au premier rang par la philosophie mathématique platonicienne. C'est en effet aux surfaces assemblées que Platon porte le maximum d'attention. Dès lors, il faut mettre ensemble le tétraèdre, l'octaèdre et l'icosaèdre, dont les faces sont des triangles équilatéraux, et mettre à part le cube dont les faces sont des carrés et le dodécaèdre dont les faces sont des pentagones. On étudie ensuite les faces elles-mêmes en les décomposant en triangles rectangles. Ces triangles rectangles sont scalènes quand la face est un triangle équilatéral. Chaque triangle équilatéral donne ainsi six triangles rectangles scalènes. Les faces du cube, au contraire, donnent, si on les sectionne par les diagonales, des triangles rectangles non pas scalènes, mais isocènes. On obtient ainsi une série de considérations qui expliquent les volumes polyédriques par une comptabilité de triangles superficiels. On pourrait dire que les cinq solides platoniciens sont considérés en définitive comme cinq types de supports pour des surfaces triangulaires. Mais viennent en action des intuitions plus concrètes. Comme les nombres idéaux sont les sources de l'inépuisable nature, les cinq formes polyédriques parfaites sont la base même de la matière. Les quatre éléments sont représentés dans la chimie géométrique de Platon de la manière suivante. Le tétraèdre étant le polyèdre qui a le moins de faces, il en a quatre, sera le plus mobile, le plus aigu, le plus tranchant, c'est l'élément du feu, c'est l'élément géométrique du feu. L'octaèdre, avec ses huit triangles équilatéraux, donc 8 multiplié par 6 égale 48 triangles rectangles scalènes, a aussi une grande mobilité. C'est l'air. L'icosaèdre, avec ses 20 faces en triangles équilatéraux, donne 20 multiplié par 6 égale 120 triangles rectangles scalènes. Il aura lui aussi une grande puissance pour diviser et dissoudre. C'est l'élément de l'eau. Avec ces trois polyèdres s'achève le rôle de l'élément triangulaire superficiel scalène. Reste le cube, dont les faces sont des carrés, et des carrés qui se subdivisent en rectangles isocèles. Le cube représente la Terre. C'est l'élément le plus lourd, le plus stable, le moins mobile. Il est, par certains côtés, l'antithèse du feu. Dans un savant article paru dans la revue de métaphysique et de morale de 1951, sous le titre « La chimie du thymène », Bruins a étudié les possibilités de transformation des éléments. Pour lui, dans ces transformations, il y a conservation des surfaces. Mais la division des surfaces sous les deux sortes d'éléments rectangles scalènes, ceux du feu, de l'air et de l'eau,
et en triangle, rectangle, isocèle, ceux de la Terre, interdit précisément toute transformation des trois éléments scalènes en l'élément isocèle. Que ce soit par l'action du feu, de l'air ou de l'eau, jamais la Terre, le cube, ne pourra être transformée en quoi que ce soit d'autre. Elle restera Terre. Et Bruins marque le caractère tout mathématique de cette affirmation en disant, aussi loin que l'on puisse pousser la division géométrique d'un élément, on ne pourra jamais trouver un type de triangle commun au carré et au triangle équilatéral, puisque le carré est soumis à une loi en racine carrée de 2 et le triangle équilatéral à une loi en racine carrée de 3, c'est-à-dire à des irrationnels différents. La chimie de Platon est donc gardée par des considérations vraiment arithmétiques. En considérant les polyèdres réguliers dans leur rapport avec les quatre éléments de la matière, nous avons laissé de côté le dodécaèdre formé par 12 pentagones réguliers. Dans la cosmologie platonicienne, le dodécaèdre représente l'univers, car, disent les interprètes, c'est le polyèdre régulier qui s'approche le plus de la sphère. Pour un esprit scientifique moderne, de telles conceptions, aussi bien celles touchant les nombres que celles touchant les figures géométriques, peuvent paraître plus métaphoriques que réelles, plus philosophiques que scientifiques. Mais si on lit les œuvres platoniciennes sans s'appesantir sur une critique des faits mathématiques que nous avons rappelés, on a bien vite l'impression que la clarté des discussions et que les raisonnements analytiques bien conduits révèlent les qualités mêmes de l'esprit mathématique. L'atmosphère mathématicienne, semble-t-il, est ici active. Le devoir de clarté est respecté dans toutes les démarches de la pensée philosophique. Quand Platon écrivait sur sa porte de philosophe « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre », il souhaitait pour ses disciples cette synthèse de l'esprit mathématique et de l'esprit philosophique qui fait de son œuvre une œuvre incomparable.
Gaston Bachelard, 1954.
À elle seule, la médecine grecque demanderait une conférence si l'on voulait présenter un tableau général des sciences naturelles dans l'Antiquité. Mais par le fait du contact humain si précocement complet dans la médecine hippocratique, la médecine dépasse en quelque manière le point de vue de l'historien. Autrement dit, la médecine d'Hippocrate est éminemment actuelle et il faut être médecin pour en parler d'une manière valable. Dans la présente causerie, nous laisserons donc de côté la médecine grecque pour nous limiter aux sciences naturelles dans leur premier effort d'objectivité, plus particulièrement dans la technique d'observation d'un Aristote pour la zoologie et d'un Théophraste pour la botanique. Aristote est un biologiste né. Outre des traités particuliers et bien délimités, comme ceux sur la respiration, sur l'essence, sur le sommeil et la veille, il a composé 3 traités auxquels j'emprunterai les documents de cette causerie. L'histoire des animaux, deuxièmement, les parties des animaux, et troisième, la génération des animaux. Pris dans cet ordre, il semble qu'on ait un programme de recherches bien ordonnées. En fait, des recherches générales qui auraient dû être indiquées dans les premiers livres n'apparaissent souvent que dans les suivants. Aristote se donne à l'occasion. Il s'étend sur les sujets qui fixent sa curiosité. Par exemple, il traite longuement du crocodile et n'a que quelques lignes pour le chat domestique. Il écrit tout un traité sur les abeilles et il a fort peu d'attention pour les araignées. Aristote avait donné une curieuse description du comportement du silure, le poisson-chat. On y disait que la femelle, après avoir pondu, abandonnait les œufs, mais le mâle gardait le nid, mettant en fuite tous les poissons qui pouvaient dévorer les œufs. Le silure mâle garde ainsi le nid, dit Aristote, pendant 40 ou 50 jours, jusqu'à ce que les petits poissons ne puissent échapper aux prédateurs. Pendant des siècles, dit l'historien de la biologie Charles Singer, on n'avait fait que rire de toute cette histoire de silure de la rivière à Kelloïs. Et cependant, le grand naturaliste américain Agassiz, au XIXe siècle, reconnut les mœurs décrites par Aristote sur un silure d'Amérique et qu'il appela, en souvenir du biologiste grec, le parasilurus aristotélique. Singer signale aussi d'excellentes descriptions de la torpille, ce poisson qui possède des organes produisant des décharges électriques. Naturellement, Aristote ne pouvait pénétrer la cause des secousses vigoureuses provenant de cet animal singulier. Mais il en donne une description minutieuse, de même pour le poulpe, de même pour la sèche. Aristote accompagnait ces descriptions de dessins qui sont malheureusement perdus. Mais les descriptions sont si bien faites, les descriptions littéraires, si complètes, que Charles Singer, en les suivant, n'hésite pas dans son ouvrage à reconstituer des dessins qui, pense-t-il, reproduisent les dessins d'Aristote. L'exactitude des descriptions conduit à des discriminations dont nous sous-estimons maintenant les difficultés. Il n'était pas commode, par exemple, de reconnaître que la baleine n'est pas un poisson. Rappelons tous les facteurs de distinction qu'Aristote avait mis en lumière. Il savait, par exemple, que les mammifères ont des poumons, qu'ils respirent l'air et qu'ils ont le sang chaud. Il savait qu'ils sont vivipares, c'est-à-dire que leurs petits viennent au monde vivant, et qu'ils allaitent ces petits, et que les petits, avant de venir au monde, sont rattachés aux organes de la mère par un cordon qui aboutit à un appareil nommé le placenta. Aristote savait que ces dispositions n'existent pas chez les poissons. C'est pourquoi Aristote sépara très bien les poissons des animaux marins que nous nommons les cétacés et qui sont en effet des mammifères. Ce sont par exemple les baleines, les marsouins et les dauphins. Il plaça donc les cétacés près des mammifères ou avec eux, mais il fut presque le seul écrivain de l'Antiquité à le faire. En discutant les caractères généraux des mammifères, Aristote s'exprime ainsi. Parmi les animaux vivipares, il y a l'homme, le cheval, le phoque et les autres animaux qui ont des poils et aussi parmi les animaux de la mer, les cétacés. Ces derniers animaux ont un évent, sont munis de poumons et respirent. Et donc absolument net. Aristote ne connaissait pas un nombre suffisant d'animaux pour en tirer une systématique valable. Toutefois, pour son temps, sa science était assez vaste. Il est frappant que Pline, 4 siècles plus tard, ne donnera pas une liste d'animaux plus longue que la liste d'Aristote. Les descriptions de Pline sont d'ailleurs bien inférieures. Elles ajoutent aux faits réels des récits fabuleux et invraisemblables. Sans doute, on trouve aussi chez Aristote quelques fables. Il n'a pas pour rien accepté les récits des chasseurs et des pêcheurs, mais on sent toujours en réserve chez Aristote un esprit critique, un besoin de voir et d'observer par lui-même. L'Aristote savant ne se sépare pas naturellement de l'Aristote philosophe. La philosophie biologique d'Aristote est entièrement développée dans la lumière de la finalité. D'abord, la structure des organes est conditionnée totalement par leur fin. Mais une finalité plus vaste anime la nature pour Aristote. Dans son histoire des animaux, il dit que la nature passe petit à petit des êtres sans vie aux animaux. Il y a continuité des plantes aux animaux. L'éponge, dit-il, est absolument semblable aux plantes. Il se rend compte qu'elle est à la limite de la plante et de l'animal. Et Aristote conclut, c'est toujours par une toute petite différence que les êtres vivants, les uns par rapport aux autres, semblent gagner en vie et en mouvement. Aristote, avec toute l'Antiquité, croit à la génération spontanée. La vie est pour lui un facteur de continuité. Elle prend naissance dans l'inanimé et de degré en degré atteint les formes supérieures. Nous aurions pu retenir quelques textes aristotéliciens où le philosophe parle des végétaux. Mais en fait, c'est à son successeur, c'est à Théophraste, qu'il faut nous adresser si nous voulons atteindre une botanique qui porte la marque d'une pensée scientifique. Théophraste naquit vers 380 avant Jésus-Christ, dans l'île de Lesbos, où il connut sans doute Aristote. Comme Aristote, Théophraste vint à Athènes pour y suivre les leçons de Platon. Il s'attacha au lycée, et lorsqu'Aristote quitta Athènes, c'est à Théophraste lui-même qu'Aristote remit son enseignement. Théophraste vécut presque centenaire. Nous avons encore deux traités de botanique. Le plus important est une histoire des plantes. On y trouve une compilation d'opinions populaires sur les plantes, et naturellement, sur les valeurs médicinales des plantes. La médecine hippocratique avait, dans ce domaine, enraciné de nombreuses traditions. Des idées qui nous semblent bien communes ne sont pas nécessairement d'une élucidation commode. Voici une observation de Théophraste. Chez certaines plantes, la racine et la tige naissent du même point de la graine, et chez d'autres, de deux points opposés. Ainsi, dit Théophraste, chez le pois et autres plantes à gousses, la racine et la tige naissent du même endroit qui est celui où la graine est attachée à la gousse. Au contraire, le blé, l'orge, émettent leurs tiges et leurs racines en deux points opposés de la graine. Cette distinction n'est pas autre chose que notre distinction entre dicotylédone et monocotylédone. L'historien de la biologie Singer voit là la preuve d'un véritable talent d'observation et il ajoute qu'on pourrait utiliser la description de Théophraste comme texte explicatif d'un livre élémentaire moderne. Singer attire l'attention sur le fait que dans les textes anciens, chez Pline entre autres, il est fait allusion à des plantes mâles et à des plantes femelles. la véritable connaissance du sexe chez les plantes, note soigneusement Singer, ne date que des temps modernes. Toutefois, Théophraste, comme d'autres auteurs anciens, connaissait la fécondation des dattiers. La curiosité de Théophraste s'étend à bien d'autres domaines que la botanique. Il nous reste des fragments d'un traité sur les pierres, sur les odeurs, sur les sensations. Il nous reste surtout ces caractères qui devaient servir de modèle au caractère de notre La Bruyère. C'est là un témoignage de cette puissance d'observation qui s'adressait aux sujets les plus divers et qui, dans certains domaines, montrait une pénétration qui n'a pas été dépassée.
C'était Gaston Bachelard, 1884-1962. Histoire et formation de l'esprit scientifique. Rediffusion. Un rêveur de mots, Gaston Bachelard, par Michel Cohen, 1983. Suivi de Gaston Bachelard bis, archive. Cette semaine, la pensée grecque et l'esprit scientifique. Aujourd'hui, mathématiques, philosophie et sciences naturelles. Platon, Aristote, Théophraste, 1954. Bibliographie disponible sur franceculture.com. Isabelle Mézil, Philippe Palares, Hervé Evano, Marc-Hubert Florio.